CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Keylus par Johan.
Bonjour à tous, merci d'être fidèles au MAG du pays Midi-Quercy. Dans ce numéro, nous entendrons d'abord Camille Savoie, qui est chargée de cuisine, figurez-vous, qui nous présente la disco-soupe de samedi prochain. Et Johan Hubelet, technicien forestier au CRPF, qui évoque le bilan de l'action de dynamisation de la gestion forestière en pays Midi-Quercy. En PETR aujourd'hui, on va dire. À la cuisine de Nègrepelisse, samedi 25 avril, on va faire ce pourquoi la cuisine porte son nom. On va cuisiner une disco-soupe. Camille Savoie, vous êtes la chargée de cuisine. En quoi ça consiste, une disco-soupe ?
Alors, la disco-soupe, c'est un événement en fait, qui a été conçu il y a quelques temps et qui se répand beaucoup au niveau national et international. En fait, ça consiste à récupérer des légumes invendus pour les préparer tous ensemble et faire des soupes gigantesques avec. C'est un événement en fait qui a été conçu pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Donc ça veut dire qu'on vient avec un poireau à la main, deux patates.
Voilà, moi je m'occupe aussi de récupérer les légumes invendus auprès des producteurs, des supermarchés, des grossistes du territoire. Et après, tout le monde est invité à participer en récupérant aussi les légumes qu'on ne sait plus comment utiliser et qui traînent au fond du frigo.
Et vous savez, vous débrouillez, mais vous n'allez pas faire qu'une seule soupe avec tout ce qu'on va vous amener. Ça va être mescladise d'enfer.
Oui, alors après, ça va être un peu d'improvisation parce qu'on ne sait pas tellement ce qu'on va avoir comme légumes le jour même. Après, mais il y aura, je pense, au moins 3 ou 4 grandes marmites et tout le monde pourra improviser les soupes qu'ils souhaitent. Et donc c'est un événement qui est en musique, parce que le principe c'est aussi de passer un moment convivial et festif. Du coup on a invité un groupe de musique qui s'appelle le Lorenzo Naccarato Project, et en fait c'est un pianiste, un contrebassiste et une batterie qui viennent jouer pour l'événement. Et chacun est aussi invité à ramener non seulement un poireau et une carotte, mais peut-être aussi sa guitare ou sa flûte traversière s'il veut s'ajouter au groupe de musique et jouer des morceaux.
Alors, si je comprends bien, une disco-soupe, le samedi 25 avril, entre 17h et 20h à la cuisine Centre d'art et de design de Nègrepelisse, une soirée gratuite, presque scène ouverte, fête de la musique, mais on mange la soupe confectionnée avec ce qu'on a apporté.
Voilà. Et en fait, c'est un événement aussi qu'on conçoit donc en partenariat avec de nombreuses associations du territoire qui travaillent et valorisent des productions locales et une production biologique. Donc il y a par exemple l'association Graines de Terroir, les Jardins des Gorges de l'Aveyron et aussi Histoire Recyclable. Donc chacun vient avec un stand pour présenter le travail qu'ils font au quotidien sur le territoire et aussi des animations pédagogiques pour les enfants. Donc autour du gaspillage alimentaire, mais aussi par exemple Graines de Terroir qui propose une animation sur les cinq sens. Et il y a également un partenariat avec la ludothèque Tipeee de Jeux qui propose donc 5 jeux géants pour les enfants. Donc c'est par exemple un baby-foot géant ou un Mikado géant, plein de jeux comme ça qui seront disséminés dans la cour et en libre accès.
En fait, c'est la grosse teuf. Hein. Au début, c'est une disco-soupe, mais...
C'est pour ça qu'on met le disco-soupe. C'est pour mettre le clin d'œil un peu festif.
Alors, vous m'avez dit graines de terroir, c'est grainesdeterroir.com, ce sont des producteurs bio. Vous m'avez dit les Jardins des Gorges de l'Aveyron, c'est l'entreprise d'insertion, mais qui fait du maraîchage bio. Et les recyclables ?
Alors, l'association Histoire Recyclable, donc eux, ils sont basés sur 7 fonds à la cheminée. Et donc, ils s'occupent de valoriser toutes les initiatives liées à la sensibilisation à l'écologie. Et voilà, toutes les petites structures qui ont des projets écologiques et qui sont sur le territoire, mais aussi au niveau plus national.
Bon, mais alors, si on est vraiment dans le recyclable et avec des légumes de producteurs locaux, ça veut dire quoi ? Vous allez devoir mettre de la soupe en boîte s'il y en a trop ?
Ah bah après, je pense que tout le monde pourra repartir avec un peu de soupe. Alors, non seulement penser peut-être aux poireaux et à l'économe aussi, pour penser à les parties épluchage, mais peut-être un petit pot aussi pour ramener un peu de soupe et...
Amener des bocaux.
Voilà, les bocaux aussi, oui.
Bonne idée. Très bonne idée. Alors ça, c'est un événement qui est appelé à être récurrent.
Non, c'est assez exceptionnel. Alors en fait, c'est un événement qu'on a programmé en lien avec l'exposition qui est actuellement présentée à la cuisine, le Centre d'art et de design, qui est une exposition réalisée par l'artiste Robert Milin. Et donc cet artiste a réalisé une vidéo sur le territoire. Il est allé à la rencontre d'habitants du territoire. Et donc, toujours sur cette thématique de l'alimentation, il s'est rendu compte que les habitants ici mangeaient très souvent une soupe en entrée d'un repas. Et donc, il a réalisé un portrait vidéo sur ces habitants en train de déguster une soupe, afin de valoriser toute la gestuelle à table et le rapport que l'on a aussi à la table, avec des moments plus difficiles que d'autres. Enfin, il y a toute une histoire de vie qui se construit autour d'une table. Et donc, c'est autour de cette vidéo qui s'appelle « Une soupe en automne » que l'on a décidé de faire plusieurs actions culturelles en lien avec son travail, dont cette disco-soupe.
Bon, c'est presque in extremis, c'est la fin des légumes d'hiver, on commence à avoir des fèves. Il peut y avoir un joli mariage là, entre des légumes de printemps et ceux d'hiver.
Ah oui, oui, je pense que c'est la rencontre des deux. Peut-être quelques choux qui restent encore présents sur les marchés, mais voilà, surtout des légumes bien verts qui commencent à arriver également.
Super, voilà. Donc samedi 25 avril à partir de 17h, c'est gratuit. On arrive avec quelques légumes, des bocaux si on veut emporter après son comment on dit, un doggy bag avec la soupe confectionnée ensemble, et puis c'est une soirée festive avec de la musique avec Lorenzo Nataraco Project et une scène ouverte pour les musiciens en herbe qui voudraient se présenter là. Bon, vous, ouais. Vous allez être très occupé à éplucher, à faire cuire, on vous entendra pas chanter alors.
Non, moi je participerai pas à la scène musicale, plutôt la scène de cuisson, oui, plutôt dans les backstage.
Et vous n'aviez pas des ateliers enfants en cours là ?
Si, si, exactement. On a des ateliers enfants qui sont proposés en fait pendant toutes les vacances scolaires et le mercredi après-midi. Et donc pour ce mercredi, vous avez un atelier d'art plastique qui est proposé aux enfants. En fait, c'est un atelier donc en association avec l'association Réel, donc un atelier d'écriture et également un atelier de cuisine qui propose de créer des soupes autour de la couleur verte. Voilà. Donc ces deux ateliers sont proposés aux enfants de 6 à 12 ans et de 14h à 18h. Et le prix de participation est de 7 euros par enfant.
Camille Savoie, je vous remercie.
Merci beaucoup à vous. À bientôt.
I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams,
lost
dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams,
rough dreams,
dreams to remember.
I still want you to stay. I still love you anyway. I don't want you to ever leave. Girl,
I know you said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen to me, mama.
CFM, CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag du pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et samedi à 18h.
Avec Johan Hubelet, technicien forestier au CRPF, nous allons maintenant évoquer le bilan de l'action de dynamisation de la gestion forestière en pays Midi-Quercy, puisque à l'époque, ça s'appelait encore comme ça, même si depuis le 1er janvier, c'est un pôle d'équilibre territorial et rural dans lequel nous sommes. Johan Hubelet, un technicien forestier, d'abord le CRPF, de quoi il se mêle? De quoi il s'occupe?
Et bien, bonjour, et merci effectivement pour cette interview et puis de ces questions. Alors tout d'abord, je vais faire un petit rappel historique, puisque régulièrement, quand je rencontre des propriétaires forestiers, ils me parlent encore des eaux et forêts. Il faut savoir qu'en 1963, le ministre de l'Agriculture de l'époque, M. Pisani, a dissous le corps des eaux et forêts. Donc aujourd'hui, les eaux et forêts n'existent plus du tout. Et il a créé à cette époque-là l'Office national des forêts, donc organisme public chargé de gérer les forêts publiques. Il a également créé la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Direction départementale des territoires. Donc c'est la DDF qui a fusionné avec la DDT et quelques services de la préfecture. Cet établissement étant chargé, lui, d'attribuer des subventions et de dresser des procès-verbaux si jamais il y a des coupes qui ne sont pas réalisées dans de bonnes conditions. Et enfin, M. Pisani a créé le CRPF, le Centre Régional de la Propriété Forestière, qui est aussi un établissement public chargé de promouvoir la gestion durable, donc de former et d'informer les propriétaires forestiers privés à la gestion de leur bois. Voilà pour ce petit historique.
La gestion d'un bois, quand on est propriétaire d'une parcelle dont on s'occupe, bon, très bien, mais quand on est propriétaire d'une parcelle dont on a hérité et qui est pratiquement inaccessible, et quelquefois on le sait parce qu'on paye des impôts, mais c'est tout.
Oui, et encore, c'est pas toujours le cas, puisqu'il y a un seuil de recouvrement qui est de l'ordre de 12 euros pour pouvoir payer un impôt foncier lié à ces bois, donc c'est en cours de révision, mais ce qui fait que beaucoup de propriétaires, finalement, ne sont pas systématiquement conscient d'être propriétaire de bois. Il faut savoir que dans le département de Tarn-et-Garonne, on a 65 000 hectares de forêt, à 97% privés. Donc on a très très peu de forêts publiques. La plus grosse forêt publique du département est située sur la commune de Montèche, entre autres. C'est la forêt d'Agre. Et sur ces 65 000 hectares de forêt, il y a à peu près 26 000 propriétaires. Ce qui signifie que vous avez en moyenne, par propriétaire, 2,50 hectares de bois. Donc c'est pas beaucoup. Et souvent, ces propriétaires-là sont propriétaires de parcelles, mais en plein de petits morceaux différents, et pas forcément bien matérialisés sur le terrain. C'est ce que me disiez, effectivement, les limites sont pas toujours évidentes à trouver. Alors, il y a des indices, il y a des supports qui peuvent aider, comme un relevé de propriété accompagné du plan cadastral, et également des indices sur le terrain, des bornes, des piquets, des arbres plus gros qui matérialisent les angles. Mais c'est pas toujours évident.
Quand vous dites 2,5 hectares en moyenne, ça veut vraiment dire qu'il y a des parcelles beaucoup plus petites encore.
Ah oui, quelques mètres carrés, oui. Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Alors, comment essayer de gérer ça de manière utile et durable, puisque finalement, il y a des filières bois, on sait que c'est une énergie possible, on sait aussi que quand ce n'est pas entretenu, alors que la loi y oblige, hein, il peut y avoir des endroits où, par exemple, les incendies se répandent trop rapidement.
Alors effectivement, là je vais relever ce que vous venez de dire concernant l'obligation d'entretenir les bois. Dans notre département, il n'y a aucune obligation d'entretenir les bois. Dans certains départements en France, le risque incendie, là vous l'avez bien souligné, est très important, notamment dans le sud-est, et les propriétaires sont tenus d'entretenir les bois, notamment les sous-bois, à proximité des maisons. Dans notre département, on a seulement quelques communes qui sont situées sur une zone à risque dit « moyen ». Donc, qui n'est pas forcément très important au niveau incendie. Ce qui fait que finalement, ici, on a très peu de propriétaires qui entretiennent leur patrimoine forestier. D'autre part, on a aussi c'est un petit département, hein, il y a un taux de boisement qui est de 18,5%, ce qui est inférieur en fait à la moyenne nationale qui est de 23%. Donc, quand je parle de taux de boisement, c'est la couverture forestière sur un territoire. Donc c'est un petit département, pas très forestier, et donc on n'a pas une culture forestière aussi ancrée qu'on pourrait l'avoir dans des régions ou de départements tels que le département des Landes, par exemple. Donc une dynamisation qui n'est pas évidente, et c'est notamment l'objet de l'étude qui a été menée par le Pays Midi-Quercy, en collaboration avec certains acteurs forestiers comme le CRPF, pour essayer d'inciter les propriétaires forestiers qui le souhaitaient à prendre en compte la gestion de leur bois, essayer de dynamiser la gestion des bois, tout simplement.
Vous avez dit entretenir son patrimoine. Quand on considère le patrimoine comme un capital, curieusement, le fait de ne pas entretenir une forêt, ça la fait décliner.
Tout à fait. C'est vrai que c'est souvent une situation un peu particulière. Dans ce secteur du Pays-Midi-Quercy, on constate notamment beaucoup de mortalité d'arbres, notamment des châtaigniers. Passé une trentaine d'années, 35-40 ans, ces peuplements, compte tenu d'un climat qui est un petit peu difficile, on manque d'eau à l'été principalement, et d'un certain nombre de problèmes sanitaires, on a des dépérissements très importants. On a des risques d'incendie, vous l'avez souligné, mais également des risques d'accident, tout simplement un arbre qui tombe à travers de la route, donc les propriétaires en sont responsables, donc il y a des risques plutôt importants, et c'est également une ressource qui se dégrade. Bon, elle n'est pas perdue pour tout le monde, puisque il y a un certain nombre d'insectes qui vont pouvoir consommer ces bois qui tombent à terre, et donc il y a un retour de ces éléments au sol. Cela dit, on a une valeur économique qui se perd progressivement, et un impact paysager qui n'est pas négligeable. Donc l'objectif aussi de ma mission, c'est d'essayer d'inciter ces propriétaires qui méconnaissent la plupart du temps leur forêt, de faire des actions sylvicoles qui peuvent entraîner un revenu pour eux, puisque les bois peuvent être valorisés dans la plupart des cas, et essayer donc, voilà, de les mettre en relation avec des opérateurs professionnels pouvant réaliser les coupes pour leur compte.
Alors en général, les coupes qu'on voit dans nos zones perdues, ce sont des élagueurs qui viennent au service d'EDF pour protéger les lignes, point barre.
Alors, il faut regarder un peu plus près. Bon, effectivement, ça se voit plutôt bien, puisque généralement, quand l'EDF intervient, les arbres sont coupés et laissés à terre. Et du coup, ça modifie de manière assez importante, effectivement, le paysage. Mais quand on commence à entrer en forêt, ou longer les routes, on voit parfois des tas de bois. Donc, ces bois proviennent bien de parcelles, la plupart du temps privées, dans lesquelles des exploitants forestiers sont intervenus pour couper les arbres qui étaient arrivés à maturité.
Est-ce qu'il est imaginable de penser à un remembrement ? Le mot est fort, mais quand vous disiez que des parcelles sont très petites et que du coup chaque propriétaire se dit « bon, c'est pas pour un hectare que je vais faire intervenir quelqu'un », surtout si c'est pentu, si c'est difficile d'accès, est-ce que c'est concevable ça ?
Alors c'est concevable, effectivement, on a déjà eu l'idée. Cela dit, c'est très très difficile. Il faut savoir que la plupart du temps, on est propriétaire de bois de père en fils. Il s'agit d'héritage, de souvenirs familiaux. Donc on a mis en place notamment une action. Alors c'était pas du remembrement, parce qu'on n'a pas souhaité forcément brutaliser les propriétaires, sachant que le remembrement est une décision du conseil général. Donc c'est quelque chose de plutôt lourd et fastidieux, coûteux et très difficile à mettre en œuvre. On a mis en place, dans le cadre d'une étude qu'on appelle charte forestière de territoire sur le Pays Midi-Quercy, une bourse foncière. Le principe étant de mettre en place un site internet, qui a été donc réalisé par le syndicat mixte du Pays Midi-Quercy, pour mettre en relation les propriétaires forestiers qui souhaitaient vendre leurs parcelles et d'autres qui souhaitaient acheter. Voilà, c'était une des actions qu'on a mis en place sur ce territoire, pour essayer de diminuer ce morcellement.
La question que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous aimeriez apporter des éclaircissements, c'est laquelle ?
Peut-être cette action justement qui a été menée en plus sur le secteur du Pays Midi-Quercy, dans le cadre d'une charte forestière qui avait été... Donc, la charte forestière, c'est un état des lieux, une carte d'identité, si vous voulez, de la forêt sur le Pays Midi-Quercy. Ça a été mis en place entre 2010 et 2012, et l'objet de cette étude a permis de déterminer un certain nombre d'actions en faveur des propriétaires forestiers pour essayer de mieux gérer la forêt. Et dans une de ces actions était la dynamisation d'une trentaine de propriétaires qui souhaitaient donc bénéficier d'un diagnostic gratuit. Donc là, moi, j'ai rencontré ces 30 propriétaires, soit à peu près 300 hectares, hein, donc c'est pas une très très grosse surface, Certains ne connaissaient pas leurs propriétés. Donc, je suis allé les voir avec des plans cadastraux et également des photos aériennes de manière à pouvoir se repérer sur le terrain. Et grâce à ça, bon, certains ont pu prendre mieux connaissance de leur patrimoine et réaliser quelques opérations sylvicoles.
Une question à laquelle vous ne répondrez pas, il y a des champignons ?
Ah, des champignons, ça, effectivement. Il y en a bien un petit peu, mais...
On ne dit pas où.
Voilà.
Joël Le Bellet, technicien forestier au CRPF, je vous remercie.
Merci à vous, bonne journée. Au revoir.
Et pour finir, quelques annonces. Mardi 21, Nègrepelisse compte jeune public, atelier jouets optiques, la petite fabrique des images animées de 10h30 à 13h, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Rendez-vous sur le marché de Nègrepelisse. Intervenant Aurèle Le Tricot de la librairie Le Tracteur Savant de Saint-Antonin-Noblevan et une médiatrice de la cuisine pour les petits comme pour les grands. Les illusions d'optique éveillent la curiosité et représentent une source d'amusement garantie. Venez découvrir ou redécouvrir l'ingéniosité des folioscopes, tomatropes, phénakitiscopes et autres machines et images animées au nom imprononçable. La cuisine 05 63 67 39 74. À Saint-Antonin-Nobleval, toujours mardi 21, poésie en partage de 18h à 19h au Cafarnaum, moment de détente avec Michel Wenger qui commentera et lira des extraits de Jean Dormesson. À Albias, mercredi 22 à 21h à la salle des fêtes, spectacle de danse organisé par Cap Danse. À Bioul, apéro-concert de l'association des parents d'élèves à partir de 19h devant la salle des fêtes. À Nègrepelisse, ciné-vacances à la médiathèque à 10h30, cycle Mon Premier Ciné à partir de 3 ans. C'est les vacances, de 14h à 15h, visite l'exposition Une soupe en automne de Robert Midin. Et de 15h à 17h, l'atelier au choix, atelier d'écriture ou atelier cuisine. À 17h30, cinéma, projection d'un court-métrage sur réservation. Toujours la cuisine, 05 63 67 39 74. À Saint-Antonin-de-Bleuval, atelier patrimoine pour enfants. Rendez-vous à l'office de tourisme à 15h, c'est 2€ par enfant. Office de tourisme, 05 63 30 63 47. À Vaïssac, évadez-vous en zones humides, balades familiales nature, activités ludiques d'observation et d'enquête sur la faune et la flore, sur l'espace naturel sensible du lac de Gouire, de 14h à 17h, et c'est le CPIE Quercy-Garonne, le nouveau nom du CPIE Médicercy, 05 63 24 06 26. À Saint-Antonin-Nobleval, randonnée pédestre ouverte à tous, organisée par Horizon Forme, aux environs de Saint-Antonin-Varin. Départ à 9h45, participation 4€. Contact 06 23 33 83 46. À Montpezat-de-Quercy, toujours jeudi 23, opéra anglais du 18e siècle du roi Arthur, présenté par Madame Moureau, à 18h30 à la médiathèque, organisé par les amis de la médiathèque. Vendredi 24, à Caussade, concert gratuit du trio Ganaïm, c'est de l'Irish Music Jazzy, c'est à l'Irish Pub bien sûr. À Montricou, bal organisé par la FNACA, à partir de 21h à la salle des fêtes. Vendredi 24 à Nègrepelisse, le cycle ciné-vacances continue, à la médiathèque à 15h. Concert de l'ensemble vocal des Rives de l'Aveyron du chœur féminin Aga Kant et du quatuor à cordes de Jamaïl à l'église de Nègrepelisse, à 21h. Samedi 25 à Montpezat-de-Quercy, cinéma-théâtre tout public, une clé pour deux à 14h30, c'est organisé par Montpezat Comédie. À Nègrepelisse, les puces du château, proposées par la municipalité de Nègrepelisse tous les samedis matins, de 7h à 14h, place du château. Et à 17h, disco soupe, cuisine à musique, ce que nous a expliqué Camille Savoie tout à l'heure. Et à partir du 25 avril, à Saint-Antonin-Nobleval, débute le festival du livre d'artistes, exposition de livres d'artistes, conférences, lectures, dédicaces, animations et ateliers autour des métiers du livre, ouverts aux artistes amateurs de notre région. C'est l'association Mosaïque en Val, 05 63 67 16 32. Dimanche 26 à Caussade, marché artisanal et gourmand, à 9h, espace Bonaïs. À La Guépie, foire aux fleurs. À la Salta Belmonte, la Belle Montée, cyclisme sur route, rendez-vous à 9h à la mairie, tous les dimanches matins. À Montricou, foire de la Sainte-Trope, vide-grenier, animation musicale et buvette, à partir de 9h. À Nègrepelisse, 5e édition de Les Cordes Sensibles invite. 5 chorales locales ou voisines sont invitées pour ce grand concert à la salle des fêtes à partir de 14h30.
Le MAG du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr, les émissions Le MAG du Pays Midi Quercy. À la semaine prochaine !